vie d'Italie. En français?
Voglia d'Italia.
Pour voir l'Italie autrement, d'ici.
Per molto tempo fui ebanista, operaio in borgo d'ogni santi. Mia moglie lì faceva la modista, in questo modo tiravamo avanti. Quando la domenica era bella, ci vestivamo a festa per andare in via delle usciate tanto per fare, contenti di veder de cervellare.
Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Fréquence Paris, pluriel 106.3 FM.
I nostri due marmocchi impiastricciati,
brandendo lieti miseri balocchi. Tous les premiers lundis du mois, vous écoutez en vie d'Italie sur le 106.3 FM.
Ci correvamo in via Chadè, strozzati tutti quanti allo steccato, menando colpi per meglio vedere.
Bonsoir à toutes et à tous. Comme tous les premiers lundis du mois, vous écoutez Envie d'Italie sur 106.3 FM. Vous retrouvez l'équipe d'Envie d'Italie avec ce soir en studio Élise Brouot, Bertrand Chaumeton et moi-même Véronica Collalti. Ce soir, on voudrait parler du thème des alternatives à la prison. On parlera de la situation en Italie, et, mais aussi de celle en France. Donc, on va le faire avec des invités ce soir que je vais présenter tout de suite. Alors, on va parler avec Mario Vaudano, magistrat, aujourd'hui à la retraite. Entre 1997 et 2001, il a été le président du Tribunal de Sorveglianza. On va lui demander tout à l'heure de quoi il s'agit exactement. Du Piemonte de la Val d'Aosta, le plus important en Italie, avec 11 prisons et plusieurs centres de réhabilitation pour les mesures alternatives à l'incarcération. Il a également exercé à Turin, Rome et à Bruxelles au sein de l'Office européen des luttes antifraude. Il a été amené au cours de sa carrière à travailler en collaboration avec le juge antimafia Giovanni Falcone, assassiné malheureusement en 1992. Mais aussi...
Nous avons aussi l'avocat Étienne Noël qui est avec nous en plateau ce soir. Bonsoir Étienne.
Bonsoir.
Étienne Noël qui est avocat pénaliste, spécialiste dans le droit pénitentiaire et l'application des peines, et qui va pouvoir nous raconter différents aspects de son engagement.
Et on écoutera également le témoignage de Jacques Lesage de La Haye, ex-prisonnier, devenu psychanalyste, qui milite depuis 40 ans contre l'enfermement, qu'il soit carcéral ou psychanalytique. Psychiatrique, pardon.
Alors, on attend Mario Vaudano, qui a été un petit peu retenu, mais qui va nous rejoindre en plateau. Et on va commencer tout de suite avec Étienne Noël. On va vous proposer de vous présenter. Et je voudrais dire tout de suite qu'Étienne est l'auteur d'un livre passionnant sur la question des prisons et sur qui raconte aussi son engagement d'avocat, qui s'appelle « Aux côtés des détenus, un avocat contre l'État ». Qu'il a coécrit avec Manuel Sanson et qui a été publié au printemps dernier chez François Bourin, éditeur. Et donc ce soir, Envie d'Italie a envie de poursuivre une réflexion entamée l'année dernière sur les prisons et de profiter de l'expertise d'un avocat et d'un magistrat, un Italien, un Français, pour aller plus loin sur la question des alternatives à la prison, en savoir plus sur les choses qui existent et pouvoir enrichir notre réflexion d'éléments factuels bien précis. Et vous allez nous aider là-dessus. Et peut-être pour commencer, Étienne Noël, si vous pouvez nous faire part d'une sorte de bilan de l'état des prisons en France. Bien sûr, c'est un vaste thème, mais on pourrait commencer par quelques données saisissantes et très marquantes qui vont donner le début de notre discussion.
Oui, merci. Alors c'est vrai qu'il va falloir faire un effort de synthèse extrêmement important parce que je pense qu'on n'aurait pas assez de l'émission pour dresser ce bilan. En France, il y a 192 établissements pénitentiaires. Une proportion très importante de ceux-ci sont constitués de ce qu'on appelle des maisons d'arrêt ou des quartiers maisons d'arrêt dans des centres pénitentiaires. Sur les 192, je dirais qu'il y a à peu près entre 150 et 160 maisons d'arrêt à peu près. Bon. Se trouvent dans ces 192 établissements environ 67 000 personnes. Dans ces 67 000 personnes, il y en a une partie très importante qui se trouve détenue dans les maisons d'arrêt, c'est-à-dire des personnes condamnées à des peines courtes ou alors en attente de jugement. Les personnes en détention provisoire sont à peu près, c'est un chiffre qui est stable depuis déjà des années, ça représente à peu près 25% des 67 000 personnes. Bon.
Et quand on parle de détention provisoire, ça peut aller ça peut représenter combien de mois ou d'années d'attente avant le jugement ?
Ça, c'est extrêmement, juste une aparté, mais... c'est extrêmement variable. Ça peut représenter quelques jours avant une comparution immédiate, ça peut représenter quelques mois avant de passer devant le tribunal correctionnel. Mais parfois, certaines personnes sont détenues en détention provisoire pendant 3 ans à 4 ans avant de passer devant une cour d'assises, le temps que l'instruction criminelle se termine. Et cette détention provisoire est parfois prolongée lorsque la personne a fait appel. Donc on a parfois des détentions provisoires qui s'étalent sur 5 ans, 6 ans, peut-être même parfois plus. Mmh. Et ça, ce sont des détentions qui s'effectuent dans des maisons d'arrêt, donc un régime de détention extrêmement strict avec les portes des cellules fermées et qui ne sont ouvertes que pour aller au parloir, aux activités ou aux promenades. Bon, donc... La question de la surpopulation, qui est un phénomène dont il est très très souvent question en France depuis des années, se circonscrit essentiellement et uniquement dans les maisons d'arrêt. Dans les établissements pour peine, là où les personnes purgent des peines supérieures à 2 ans et des peines criminelles longues, etc., il y a un numerus clausus et l'encellulement est forcément individuel, dans des conditions plus ou moins strictes selon les établissements. Donc, on a, s'agissant des maisons d'arrêt, une double problématique. D'une part, la question de la surpopulation. Je n'ai pas les chiffres exacts du taux moyen d'occupation en France, mais il serait aux alentours de 120-125%, mmh. avec parfois des pics beaucoup plus élevés dans certains établissements. Moi, je pense en particulier aux établissements pénitentiaires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, la Guadeloupe, la Guyane, bon, et en métropole aussi. Alors, ce chiffre de 120-125%, il faut s'en méfier. Pourquoi ? Parce que c'est un chiffre qui est calculé à partir des données de l'administration pénitentiaire, à partir de ce qu'on appelle la capacité opérationnelle des maisons d'arrêt.
Et qu'est-ce que c'est ?
Alors, la capacité opérationnelle, c'est un taux qui est calculé par la pénitentiaire en disant, dans tant de mètres carrés, on peut mettre tant de personnes. Donc, par exemple, dans une cellule, je vais prendre l'exemple de Rouen.
Votre ville d'origine ?
Qui est de ma ville d'origine, oui. C'est une des maisons d'arrêt pour laquelle j'ai fait un certain nombre de procédures, enfin, pour être plus précis, plusieurs centaines. On a des cellules qui sont d'environ 10 mètres carrés. Donc l'administration pénitentiaire dit, dans ces cellules-là, on peut mettre 2,1 personnes. Ce qui veut dire qu'à Rouen, on a 291 cellules pour les hommes, oui. avec une capacité opérationnelle de 550 places. Et donc ce qui veut dire qu'on est à 100% lorsqu'on est à 550 personnes détenues dans ces cellules. Et on se rend compte que, compte tenu de la taille, on est déjà en surpopulation.
Et pourquoi vous dites...
Parce que tous les rapports parlementaires de 2001 qui ont été rédigés suite au livre de Véronique Vasseur, le Comité européen de prévention de la torture aussi, donne un chiffre, une superficie par détenu qui est de 7 ou 8 mètres carrés. Donc... Ces ouvrages et ce comité européen de prévention de la torture nous disent on ne peut mettre qu'une personne dans 7 ou 8 mètres carrés. Et lorsque les pénitentiaires nous disent dans 10 mètres carrés on peut en mettre 2, ça veut dire qu'on entérine un système de surpopulation.
Et on ne respecte pas ces indications données par...
Voilà, alors ce ne sont pas des normes impératives puisque ce ne sont que des indications. Moyennant quoi, en France, on voit bien qu'on est très, très au-delà. Et donc, on devrait calculer, en fait, en général, s'agissant des maisons d'arrêt, le taux de surpopulation, en général, par rapport aux cellules. À Rouen, par exemple, 291 cellules. Compte tenu de la taille, on devrait mettre que 291 personnes. Oui. Et donc, c'est là que le taux de surpopulation, en fait, il explose. Parce qu'à Rouen, dans ces cellules-là, vous avez de manière constante environ 650 personnes.
On est
à plus de 200%. Et ça, c'est un phénomène qu'on peut constater dans quasiment toutes les maisons d'arrêt en France. Mmh. Alors, autre phénomène qui s'intrigue, c'est la question de l'état de ces maisons d'arrêt. Ces maisons d'arrêt qui sont pour la plupart particulièrement vétustes. Je pense à Rouen, je pense à Agen, je pense à Mulhouse, je pense aux maisons d'arrêt de la Guadeloupe, Marseille, les Baumettes, effectivement, etc. Et donc, des peines qui sont parfois relativement longues, qui sont purgées dans un régime extrêmement strict de portes fermées et dans des conditions de surpopulation dans des établissements vétustes. Voilà, en gros, un petit peu comment ça se présente s'agissant des maisons d'arrêt. Mmh. Et des conditions d'hygiène qui sont, à mon avis, absolument intolérables.
Oui, on va poursuivre là-dessus. Et juste, je voulais te demander, cette situation de surpopulation ou de surnombre des prisonniers dans les cellules, depuis combien de temps est-ce qu'elle s'est installée et depuis combien de temps peut-être elle a explosé? Est-ce que c'est quelque chose qui remonte à beaucoup de décennies?
C'est-à-dire que... il y a eu une loi qui est sortie en 2000, la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence, qui avait, en remontant le seuil à partir duquel on pouvait mettre quelqu'un en détention provisoire, réussi à faire baisser mécaniquement le chiffre des personnes prévenues. Et donc, corrélativement, le chiffre de la population carcérale, à partir de la loi de juin 2000, avait considérablement baissé. Parce qu'on s'était rendu compte, en fait, qu'on était sur une espèce de pente dangereuse d'augmentation très importante de la population carcérale. Et qu'on risquait à cette époque-là, on se disait, si on fait rien, on va se retrouver avec 50 ou 60 000 personnes détenues. C'est assez rigolo parce que c'est précisément, on est même au-delà. Là.
Oui, bon. Le chiffre qu'on a dépassé.
Bien sûr. Et il y a eu une affaire en France, l'affaire du Chinois. Oui. Qui a fait pas mal couler d'encre en 2001 et qui, une personne qui avait été remise en liberté par une chambre d'instruction a commis un braquage, etc. Bon, donc il y a eu des manifestations de policiers, de syndicats de policiers et le gouvernement de cette époque-là, juste après l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, a rabaissé le seuil qui permettait une détention provisoire.
Oui.
Et immédiatement, et c'est un phénomène qui ne s'est pas arrêté depuis, on a assisté à une augmentation de la population carcérale s'agissant des prévenus. Bon. Et puis à côté de ça, ce qui s'est passé, c'est que vers 2005, en 2005, la loi du 12 décembre 2005 qui a été votée sur une proposition de loi des députés proches de Nicolas Sarkozy à cette époque-là, a voté la première loi supposée lutter contre la récidive en France, qui a considérablement durci certains textes, et en particulier des textes d'application des peines qui ont été durcis s'agissant des personnes condamnées en récidive. Donc ça a été le début d'un engrenage législatif qui ne s'est pas arrêté jusqu'à maintenant, jusqu'à une loi d'août 2011 en France. Et ce phénomène d'augmentation de la population carcérale, il y a eu un pic vers 2008-2009, ça a rabaissé, mais c'est encore en train de remonter en ce moment. Donc on se rend compte que finalement, l'effet mécanique de ces lois induit une augmentation de la population, carcérale.
On va revenir tout à l'heure effectivement sur l'influence des législations sur l'augmentation de la population carcérale et leurs différents effets à différentes époques.
On va accueillir
Mario Vaudano qui nous a rejoint en plateau. Bonsoir.
Bonsoir
Mario.
Bonsoir.
Donc voilà, Étienne Noël, avocat, oui. Pénaliste, et Mario Vaudano qui est magistrat italien mais qui vit à Paris.
Oui, maintenant en Boise.
Et qui a des petits soucis avec les transports, malheureusement.
Oui, 2 heures pour arriver d'Antony à Paris.
Voilà. Merci beaucoup de nous avoir rejoints malgré tout.
Un long voyage. Donc, on parlait des problèmes de surpopulation en France, mais on sait aussi que l'Italie connaît les mêmes problèmes. Oui. En fait, on voulait te demander un petit peu de nous parler de la situation italienne à ce niveau-là, nous expliquer un petit peu, voilà, comme pour la France, quelles sont les causes, en fait, de cette situation de surpopulation dans les prisons italiennes.
Donc, il y a des motifs qui sont, pour ce que j'ai pu entendre maintenant de M. Noël, oui, et qui sont analogues, même presque semblables pour ce qui regarde l'évolution de la législation. Je parle de la période entre 2001 et 2012, ça veut dire la période dans laquelle, la dernière période du gouvernement Berlusconi, jusqu'au gouvernement Monti. Après le gouvernement Monti, il y a eu une inversion de tendance, mais très modeste et très, comment dire, timide. Mais c'est vrai que moi j'étais, j'ai travaillé dans les, dans, par choix vraiment, après une carrière de juge d'instruction et de procureur, j'ai travaillé pour 4 ans et demi comme, dans, comme président du tribunal de surveillance de Turin. Donc j'ai commencé à travailler à 97 jusqu'à 2001, quand je suis parti pour venir en Europe. Et la Commission européenne, pardon, j'étais déjà en Europe. On dit en Europe pour dire aller à Bruxelles. Oui, c'est un peu comme ça. Et je dois dire que quand je suis arrivé à faire ce métier à Turin, qui est quand même un des tribunaux les plus difficiles, les plus avec les plus de population carcérale, parce que il faut penser que c'est un tribunal à niveau régional, avec énormément plus de compétences de la Chambre d'application des peines qu'en France, avec beaucoup plus de pouvoir aussi, et qui est concerné deux régions, le Piémont et la Vallée d'Aoste, avec environ 15 d'instituts pénitentiaires et plus de 4 000 détenus, avec 15 juges d'application des peines, un président qui coordonnait la situation d'un point de vue juridique. Alors, à cette époque, la situation des prisons italiennes n'était pas merveilleuse, mais j'avais fait déjà beaucoup de comparaisons avec la France et je pouvais affirmer, sans être peur d'être exagéré ou chauviniste à l'italienne, que la situation était meilleure. Tellement meilleure qu'a été constatée par un journaliste de France Culture qui a passé avec moi en tant que président des tribunaux de surveillance, et serait très intéressant réécouter maintenant cette émission de plus de 2 heures, et qui a avec moi eu la possibilité d'aller venir dans les prisons, même des massimes de grande surveillance, de venir dans les communautés, de voir toutes les situations en concret, cioè de vivre vraiment la chose. Et l'avait reporté une impression d'une situation meilleure, en tout cas avec beaucoup de possibilités. Et je pense que c'était comme ça. Mais après 2001, déjà à la fin de 2000, mais après 2001, la situation a commencé à empirer. Et ça, malgré une grâce présidentielle, une remise des peines généralisée en 2003, on verra.
On en reparlera, oui.
On en reparlera. Pourquoi? Pour des motifs, diciamo, d'ordre politique, des motifs d'ordre juridique et des motifs d'ordre juridictionnel. D'ordre politique, la situation extérieure dominée et surtout par la propagande berlusconienne et de la Ligue du Nord était devenue extrêmement difficile pour l'esprit différent de la réforme Gozzini, l'esprit de la réforme carcérale qui avait été faite dans le passé et qui était bien perçu jusqu'à la fin du gouvernement, du deuxième gouvernement Prodi, même si la gauche a aussi eu des responsabilités. Et donc il y avait cet climat a rendu dans la pratique, pour les réactions de l'opinion publique, beaucoup plus difficile le travail des magistrats d'application des peines. Donc une peur de se tromper, une peur, et donc premier, donc un climat culturel politique. Deuxième chose, aussi très importante, 2 modifications des lois. La première sur les lois des stupéfiants, on l'appelle la Bossi-Fini.
Non, Bossi-Giovanardi.
Non, Fini-Giovanardi, pardon. Pardon. Non sais pas qui est meilleur. Hein. Bon, la Fini-Giovanardi, qui a pratiquement rendu possible la détention pour des petits faits, des stupéfiants et des trafics aussi, des détentions, qui avant n'étaient pas possibles. Donc, la deuxième chose, un phénomène que l'Italie ne connaissait pas et qui a augmenté dans les cours des dernières années, dans les cours des 10 dernières années, évidemment, une population étrangère qui a augmenté jusqu'à 5 millions et quelque chose maintenant. Pas comme pour pourcentage absolu sur des criminalités, mais comme numéro absolu, oui. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de plus de personnes emprisonnées, surtout pour trafiquer des stupéfiants, anche des faits assez graves, qui étaient étrangères. Donc, et ces situations d'irrégularité, c'est-à-dire clandestin. Ce qui signifie, comme je l'anticipe comme ça, une presque impossibilité d'appliquer les mesures alternatives. Parce que ce sont des personnes sans domicile, et une situation, donc on ne peut pas appliquer
et les mesures. Et donc ça, tu parles aussi de, donc, des conséquences de la loi Bossi-Fini, ça c'est
ça,
sûr,
c'est,
donc,
c'est, après, c'est aggravé, le délit de clandestinité. Non, ça c'est l'ultérieure aggravation, ça veut dire un fait objectif, on ne peut pas nier que l'effet d'avoir une population carcérale plus grande d'étrangers rende difficile, d'un point de vue objectif, les mesures alternatives. Et la Bossi-Fini et la Fini-Giovanardi ont aumenté cette situation de clandestinité. Ça veut dire qu'on a rendu beaucoup plus difficile la régularisation et beaucoup plus dure la perception de l'opinion pubblica sulla clandestinité. Et après, il y a eu la pénalisation formelle d'être en situation de clandestinité qu'il y a en France depuis longtemps, mais en Italie, il n'y avait pas. A été puni par une simple amende, mais le fait d'être un délit, ça a produit l'autre délit de retourner clandestinement en Italie, qui celui-là produit, c'est un délit, est puni avec la prison. Donc, augmenter encore la présence dans la prison. Donc, il y a eu une série de choses.
Enfin, ces lois-là, en fait, ont causé aussi, enfin, ont empiré.
On provoqué tout à fait, on provoqué deux choses. Une énorme augmentation de délits, tout à fait inutiles qui ont engombré les tribunaux. Une quantité énorme, des dizaines de milliers de nouveaux procédures tout à fait inutiles parce que ces personnes après étaient irrépérables, cioè, on ne les trouvait pas, donc on faisait un procès pour rien. Donc, la magistrature a été obligée de s'occuper des choses et donc de plus avoir beaucoup de temps pour d'autres choses. Ça, donc ça, l'augmentation des situations et positions irrégulières en prison, pour stupéfiants ou pour délits de réingrès clandestin en Italie. L'impossibilité de donner des mesures alternatives, donc augmentation de la population carcérale.
Il y a un autre... Enfin, je voudrais un moment aussi parler
Je parle des étrangers. Hein.
Oui,
mais,
bien sûr.
Mais il n'y a pas seulement les étrangers. Parce qu'il y a eu aussi en Italie la loi sur la récidive.
Ça
veut dire, dans la même loi que j'appelle scélérate, la même loi scélérate qui a coupé la prescription à moitié pour les délits des cols blancs, a aumenté la peine, a rendu presque impossible de donner des mesures alternatives alle persone récidive. Donc, vraiment, c'était vraiment, comme dire, manifeste justice de classe, disons, parce que moi, je ne suis pas marxiste de formation, mais c'est vraiment une manifestation de faire un choix. Et c'était le choix que le gouvernement Berlusconi, la droite en général, mais surtout lui, a poursuivi. Hein. Rendre la magistrature à ses dépendances, il n'a pas réussi, heureusement, et faire des lois qui remplissaient les tribunaux et les prisons de toute une catégorie sociale de personnes, ou étrangères, ou personnes. Comme ça, il y avait une satisfaction de l'opinion publique de droite et d'extrême droite, et une demi-paralysie, au moins ce qu'il espérait, n'a pas réussi, heureusement, paralysie de la justice pour qui était occupée tout le temps à emprisonner, faire sortir, faire des procès inutiles, tout ça.
Donc
ça, jusqu'à 2012. Après, il y a eu un léger virement et on espère.
On va y venir. Ouais, oui. Et justement, on voit dans les deux pays, à la fois la France et l'Italie, une augmentation mécanique du nombre de personnes incarcérées à la suite de nouvelles lois qui criminalisent des faits qui ne sont pas forcément des délits, qui n'étaient pas criminalisés. Donc on taxe des gens qui sont toxicomanes, des personnes qui sont étrangères. Et plein de personnes de catégorie sociale.
En Italie, ça a été plus subtil. Ça veut dire, on ne taxait pas en soi la personne qui soit toxicomane, mais on a modifié la loi.
On les a assimilés aux
vendeurs. On est assimilés au-delà d'une certaine quantité de stupéfiants aux trafiquants. Donc,
voilà. Bon, c'est... Ouais. Mais justement, alors, on évoquait le cas des prisons, leur état de délabrement. Dû en partie à la surpopulation, mais pas seulement, mais ouais. Et aux conditions du coup de détention qui sont abominables dans nos deux pays. Je voulais aussi du coup qu'on continue à parler des personnes qui sont incarcérées, parce que on remarque à la fois en France et en Italie qu'on peut, il y a une population sociale bien spécifique. On a commencé à énoncer quelques éléments. Qui les caractérise, mais peut-être Étienne Noël, on pourrait aller plus loin pour caractériser les gens qu'on retrouve oui. systématiquement en prison.
Alors,
et Mario, vous échangerez
oui.
avec
non,
Étienne.
Je voulais simplement donner quelques éléments si Étienne Noël ne les veut pas donner sur les pour pas noircir trop la situation de la France et d'Italie ou plutôt noircir la situation des autres. Plutôt, ça veut dire le malheur de l'autre ne fait pas le bonheur de la France et de l'Italie, mais malheureusement, la situation, ce n'est pas un phénomène franco-italien.
Non, bien sûr, ça, on en est tout à fait conscient. Là.
C'est un phénomène, à part quelques exceptions qui touchent, par exemple, la Belgique, qui touche les situations dans les ex-pays de l'Est et qui touche aussi l'Espagne. Bon, après...
Bien sûr, on interrogera le modèle de prison qu'on a dans nos pays. Et puis, on parlera aussi de peut-être d'autres prisons qui se sont développées dans d'autres pays d'Europe. Mais ça, ce sera un petit peu plus tard dans l'émission. Étienne Noël, je vous laisse réagir à Mario
oui.
Vaudan.
Non, mais c'est-à-dire que par rapport à la décomposition
du corps social.
Ouais. Mais juste avant, je suis désolé, j'ai moins de réflexes qu'avant, mais une des causes en France de l'augmentation très importante de la population carcérale à laquelle on assiste depuis 2007 en particulier, c'est la suppression des grâces présidentielles du 14 juillet.
Ah oui, c'est sûr.
Parce que tous les ans, on avait cet effet de soupape qui se relâchait au mois de juillet et un certain nombre de personnes condamnées à des peines très courtes ressortaient de prison. Alors, qu'on soit d'accord ou pas, c'est un autre problème. Toujours est-il que voilà, en fait, une des causes mécaniques du fait que la soupape ne fonctionne plus.
Et ça représentait combien de personnes
Ça représentait plusieurs milliers par an.
Ah oui, quand même.
Et en plein mois de juillet ou à la fin du mois de juillet, on voyait toutes ces personnes-là qui sortaient. Voilà, bon, alors maintenant qu'on le critique ou pas, je le répète, c'est peut-être pas le débat aujourd'hui. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est extrêmement positif, puisque on sait que les petites peines, elles ne résolvent absolument rien. Enfin voilà. Bon, ce que je vois moi, pour voir les gens qui viennent au parloir, les familles qui viennent au parloir dans l'établissement pénitentiaire où je vais plusieurs fois par semaine, un peu partout en France, c'est systématiquement des pauvres gens. J'insiste là-dessus. Rares sont mes clients, droits dans leurs bottes, issus d'un milieu social aisé, etc. Et je vois sans arrêt des gens qui arrivent avec des carences sociales, des carences éducatives, des carences sanitaires, des addictions, des maladies. Et ça aussi, la question de l'état de santé moyen de la population carcérale qui se dégrade de manière très sensible et de l'âge qui augmente.
Aussi,
oui, ben ça, je l'imagine très, très aisément. Il n'y a aucune raison que ce soit spécifique à la France. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Et donc, c'est toujours les mêmes personnes que je défends devant la cour d'assises. C'est toujours les mêmes personnes que je défends devant le tribunal correctionnel. Et on se rend compte véritablement de ça lorsqu'on va au parloir.
Il y a une constante, une typologie sociale qui de façon récurrente, arrive en prison.
Ah bah absolument, c'est extrêmement récurrent. Moi, je vous le redis, j'ai quelques clients issus de milieux, on va dire, allez, on le dit, bourgeois. Et tous les autres, voilà, c'est des gens qui sont complètement perdus en prison, c'est des familles qui sont complètement perdues. Et un exemple de cette criminalisation de la récidive que je ne comprendrai toujours pas, aucune justification ne m'a jamais été donnée de la raison pour laquelle on a exclu de la conditionnelle parentale les condamnés en récidive.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la conditionnelle parentale ?
La conditionnelle parentale, ça permettait à une personne qui a des charges de famille et qui est condamnée à 4 ans maximum ou qui a un reliquat de 4 années de demander une libération conditionnelle. Ouais. Donc le spectre était très large puisque jusqu'à 4 ans, on pouvait demander cette conditionnelle. Hein, même quand on était au début de la peine, par exemple. Bon. Et dès le moment où une personne est condamnée en récidive, ce qui arrive, hélas, avec les peines, très très rapidement et fréquemment, pour des raisons qui ne sont pas uniquement liées à la criminalité, hein, ça peut être autre chose, ça peut être la récidive, elle a des causes qui sont multiples, mais pas uniquement
Et on va y revenir justement.
Il n'y a pas le gène de la criminalité systématiquement dans la notion de récidive. Et ben, ces personnes-là n'ont pas le droit de demander une conditionnelle, même lorsqu'ils ont des charges de famille, ce qui revient à condamner également la famille.
Voilà, c'est ça.
C'est une mesure essentiellement et uniquement politique qui a été votée par la loi du 12 décembre 2005. Et je vous ai dit quel en avait été son inspirateur.
Oui. Tout à fait. Alors, pour prendre peut-être un exemple d'un parcours d'une personne qui était, enfin, qui va nous, on a un témoignage en fait très beau de Jacques Le Sage de La Haye, qui est lui-même un ancien prisonnier, qui va raconter un peu son entrée dans une forme de délinquance, son parcours en prison et tout le chemin qu'il y a parcouru jusqu'à devenir aujourd'hui...
Comme on a dit tout à l'heure, voilà, un psychanalyste et aussi quelqu'un qui lutte en fait, contre l'enfermement carcéral ou psychiatrique.
Donc il va nous raconter dans ce premier témoignage son premier parcours de détention.
Si... Les prisonniers et les surveillants, au lieu de se battre comme ça entre eux, étaient solidaires, ils remettraient en cause l'institution totalitaire carcérale et même l'État indirectement, puisque la prison est un des piliers de l'État.
Pourrait, à de bonnes nouvelles, pourrait que Malakit n'enterre à la fin du mois.
Jacques Le Sage, bonjour, merci d'avoir accepté aussi ce rendez-vous. Donc vous êtes psychanalyste. Et vous militez quand même depuis 40 ans contre l'univers carcéral. Et donc, on avait envie déjà de vous demander si vous pouvez parler de comment est commencé cet engagement, en fait, cette lutte qui vous a porté donc, à militer pendant plus de 40 ans en France contre l'enfermement, en fait.
À vrai dire, je n'étais pas du tout préparé à militer dans ce domaine-là, puisque mon père était marin et moi, je voulais être marin. Voilà. Mais j'ai été élevé dans un contexte tel que j'ai toujours cru être dans la misère et de surcroît élevé d'une manière violente. J'ai très vite été révolté, en colère, furieux, avec des idées révolutionnaires, mais pas du tout arrêtées ni construites. J'ai tenté d'être communiste et puis je suis allé derrière le rideau de fer, je suis revenu en disant « ben non, il reste plus que l'anarchisme ». Donc je suis anarchiste. Et j'ai cru que être anarchiste, ça voulait dire ne pas travailler, être contre l'État, et donc pour vivre, avoir un moyen de subsistance différent du travail reconnu. Donc j'ai pensé que c'était casseur-braqueur. C'était vraiment le modèle de la bande à Bonneau. Évidemment, la découverte a été très 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 dure, parce qu'après un choc carcéral d'une semaine, j'ai découvert quelque chose d'inhumain, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est ça que j'ai vraiment vu, une machine à détruire, quelque chose qui casse les individus complètement.
Et Jacques Le Sage, vous étiez très très jeune quand vous avez été incarcéré. Comment avez-vous trouvé les outils qui vous ont permis de faire tout ce chemin, les études en prison, découvrir la psychologie, construire le parcours et l'homme que vous êtes aujourd'hui ?
Oh, c'est très difficile, ça a été dramatique, épouvantable et bien fatigant. Il faut savoir que mon frère et moi, on se voyait deux fois par semaine en promenade le jeudi et le dimanche. À la maison d'arrêt, puis après à la centrale. Ça a tenu 18 mois, je crois, ou 2 ans, mais après, comme il est parti en psychiatrie, on ne s'est plus vu. Et on a eu un débat, voilà. Comment on va s'en sortir ? Voilà. On a pris 20 ans de travaux forcés. Comment on fait ? Alors, le débat était contradictoire. Moi, j'ai dit, il faut faire des études. Et Jean-Paul m'a dit, moi, je ne suis pas un enculé, je ne me mets pas à plat ventre devant eux. J'ai dit, oui, mais moi, ce n'est pas par rapport à la pénitentiaire que je veux faire des études. Il dit, si, c'est pour te faire bien voir et t'en sortir plus vite. J'ai dit, ce sera un effet accessoire. L'effet principal, c'est quand je vais sortir, j'aurai 35 ans, à peu près, je serai vieux, quoi. Je serai foutu. Donc, étant vieux et foutu, j'avais 18 ans, 19 ans, hein, moi, je préfère sortir avec des diplômes. J'étais naïf parce que je ne savais pas que l'administration me mettrait des bâtons dans les roues et ferait tout pour m'empêcher de faire des études. Quelques personnes m'ont aidé, mais la majorité, qu'est-ce que j'ai pris, hein, qu'est-ce que j'ai ramassé, hein. C'est pas parce que vous faites des études qu'il faut vous croire supérieur à tout le monde. Le Sage, retirez les mains de votre poche. Le Sage, taisez-vous. Si vous continuez, je vous fais un rapport. Oh là 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 là. J'ai eu 35 rapports en tant que meneur parce que j'interviewais des camarades pour ma thèse de doctorat à la centrale de Caen. Je l'ai su, heureusement, grâce au pasteur qui siégeait à la commission. Moi, je suis agnostique, mais le pasteur était un copain quand même. Et donc, ça s'est passé très difficilement. C'est-à-dire que j'ai vu mon frère décompenser. Je me suis dit, là, ça va pas, il y a un problème quand même. Deuxièmement, j'ai vu que j'allais très mal. J'avais des espèces de pré-hallucinations de type identitaire. Dans le langage courant, on dit hystérique, mais c'est un mot tellement pourri, ça, que je n'emploierai jamais hystérique. J'ai renoncé à ça, ça fait plus partie de mes concepts. Je ne dis pas une névrose hystérique, je dis une névrose identitaire. Voilà. Parce que tout ce qu'il y a derrière ça, c'est vachement macho, phallocratique. Donc sur ces bases-là, je vois que je vais très mal. Mon frère est fou. Il faut que je m'en sorte. Donc effectivement, je commence par continuer des études. Je m'inscris au cours par correspondance, le cours de Vanf, que tout le monde connaît. Il existe toujours. Il a changé de nom, mais c'est le même. J'ai plusieurs profs avec qui je deviens ami. Le prof de philo, André Savary, la prof de géographie et la prof de lettres. Voilà. Ces gens-là m'ont beaucoup aidé. Mais ils n'ont pas empêché que, quand j'ai été au mitard sur une des trois luttes auxquelles j'ai participé, j'ai quand même voulu me suicider. J'ai essayé de me pendre. Puis quand j'ai vu que j'étouffais, j'ai arrêté, parce que je me suis dit, mais moi, je préfère ne pas crever, je reste debout. Mais le débat qu'on avait, mon frère et moi, c'est, mais comment on s'en sort? Et lui, la seule réponse qu'il avait, c'était la muscu. Voilà. Ça ne lui a pas servi à grand-chose. Donc, moi j'ai dit la muscu, d'accord, mais surtout les études. Mais ces études, quand au bout de 3 années j'ai réussi à passer le bac, parce que l'administration n'avait plus de raison de mettre des bâtons dans les roues, j'ai commencé les études universitaires. Pas tout de suite, parce que là encore on m'a mis des bâtons dans les roues. Mais j'ai fait de la philo et un peu de psycho, qui fait partie du programme de philo. J'étais inscrit à la fac de Caen. Et voyant mon frère devenir fou et tous les autres qui devenaient fous, il y en avait beaucoup, je me suis dit non, je ne vais pas m'enfermer dans la tour d'ivoire du philosophe, c'est très poussiéreux, il faut descendre dans la rue, sur le terrain, avec tous ceux qui deviennent fous. Et donc, c'est comme ça que j'ai bifurqué, que j'ai choisi psycho, que je n'ai pas pu finir, évidemment, parce qu'il y avait des travaux pratiques qu'on ne peut pas faire en cellule. Et puis, lisant des bouquins, je me suis rendu compte que j'étais pas très bien moi-même, que même j'allais fort mal. J'ai fini par me rendre compte qu'il fallait que je fasse un travail sur moi. Il n'y avait pas de psychanalyste. Donc j'ai fait une auto-analyse qui a duré 6 ans. Je n'ai pas tout réglé, j'ai réglé beaucoup de choses. Il en restait d'autres. Donc quand je suis arrivé en fin de peine, je suis sorti. Alors, évidemment, j'ai vu que j'avais des problèmes psychologiques, que ça n'allait pas du tout. C'était la frustration affective et sexuelle, un désespoir chronique, et puis... une impossibilité à avoir des relations affectives. J'étais totalement inaffectif. L'anesthésie affective, que beaucoup de détenus dénient parce qu'ils ne veulent pas reconnaître leur misère. Moi, j'ai toujours reconnu ma misère. Et là, j'ai fait une analyse. Analyse Reichiender, corporelle, émotionnelle, etc. Et en même temps que je travaillais et que je militais, les prises de conscience étaient à la fois psychologiques et politiques. Voilà. C'est que comme ça que j'ai réussi à m'en sortir. C'est en travaillant, en étudiant et... en me battant pour transformer un système qui m'avait démoli.
Étienne Noël, on vient d'écouter ce premier témoignage de Jacques Le Sage qui raconte comment la prison a abîmé son frère, qui l'a rendu fou, et c'est pas quelque chose d'isolé, et comment lui, par contre, a réussi à entreprendre un parcours de formation. Enfin, il a eu cette chance d'arriver à donner un sens, une direction. Comment réagissez-vous à l'écoute de ce témoignage?
Je retrouve plein de parcours de beaucoup de mes clients. Des parcours extrêmement diversifiés, paradoxaux. Certains qui se sont véritablement effondrés durant leur détention, tellement elle a été longue. Des maladies psychiatriques qui sont apparues au fur et à mesure, qui n'existaient pas au moment de l'instruction et du procès. J'ai plusieurs clients qui sont en prison en France depuis plus de 40 ans. Et certains d'entre eux, enfin, je pense en particulier à un que je ne comprends plus. Dès qu'on se parle, je ne comprends pas ce qu'il me dit. Même si son regard exprime énormément de choses, le pauvre, il est devenu tellement malade. Que voilà, donc ça devient maintenant, c'est devenu extrêmement difficile d'envisager de monter un projet de sortie pour le sortir. C'est à ce point-là, bon, ce qui est totalement contraire. Donc je retrouve un peu ce que Jacques peut dire par rapport à son frère, par exemple. Enfin, sauf que ce monsieur-là, je pense qu'il n'a jamais fait de musculation. Mais voilà, c'est quelque chose qui donne le vertige. Et exactement. Et ça, j'ai beaucoup d'exemples comme ça de clients pour lesquels on a eu un mal de chien à mettre en place un projet de sortie. Des gens atteints de la maladie d'Alzheimer, des gens qui sont devenus complètement séniles, qui n'arrivaient plus à prononcer deux mots et qui étaient en prison sur des durées assez variables de 15 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Puis à côté de ça, effectivement, j'ai plusieurs clients. Là, j'en ai un en particulier en tête, un condamné à perpétuité pour lequel j'ai obtenu une conditionnelle en 2004, qui avait été condamné pour 4 homicides et qui s'est complètement construit en prison. Il a connu cette phase d'effondrement que connaissent beaucoup de gens, la prise de conscience de sa responsabilité, de savoir qu'on est l'être qui a commis ces faits-là, etc. Souvent, ça provoque cet effondrement. C'est une des raisons qui explique la négation des faits en prison aussi. On ne veut pas être celui-là, donc on nie les faits jusqu'au moment où finalement tout s'effondre. Et ce que les psychiatres et psychologues disent souvent en prison, c'est que c'est le moment pour les condamnés à des longues peines de la reconstruction. L'histoire du coup de pied au fond de la piscine, enfin, ça c'est une image, mais n'empêche que là c'est quelque chose qui est à peu près vrai. Et pour cette personne-là, elle s'est construite et elle a appris la notion d'altérité à travers de l'atelier son dans une maison centrale de la France. Et ça l'a complètement construite. Et maintenant il est ingénieur du son quelque part en France, etc. Et quand j'ai vu ce monsieur-là, moi, après 22 ans de prison, d'abord on a beaucoup sympathisé. Et puis, les psychiatres étaient complètement sidérés de voir à quel point... ils se demandaient si c'était la même personne que celle qui était concernée par les expertises 22 ans avant, pendant le procès. Mais je pense que ce genre de personnes-là, que je rapprocherai donc de l'image de Jacques, à peu de choses près, sont quand même relativement uniques. Et moi, j'en ai pas rencontré beaucoup, des comme lui. Hein. J'ai plutôt rencontré de la première catégorie, vous voyez. Et donc, la conclusion que j'en tire de manière très pragmatique et prosaïque, c'est que l'allongement de la durée de la peine est nocif à la personne qu'elle vise, mais également à la société. Parce que plus on attend et plus ils sont compliqués à remettre dehors et plus les projets de sortie ressemblent à des usines à gaz.
C'est que, enfin, en France, après on parlait aussi d'Italie, il y a beaucoup de sorties sèches, en fait. Il n'y a pas de vraie préparation, en fait, à la sortie de ces personnes.
Ah bah là, on est dans le vif du sujet. C'est absolument... Enfin, en France, 15% des personnes, des sortants de prison, bénéficient d'un aménagement de peine. C'est pas si... Enfin, peut-être un peu plus maintenant. Peut-être qu'on serait aux alentours de 20 ou 25. Mais je veux dire, c'est quand même extrêmement faible. Hein. Et, en particulier dans les peines courtes. On assiste véritablement à une augmentation extrêmement... Enfin, comment dire, non, pardon, à un nombre extrêmement important, une proportion très importante de sorties sèches, ce qui est un facteur de récidive, d'ailleurs. Mais ça, voilà,
on en reparlera tout
à l'heure. On va le développer, oui.
Enfin, moi, je veux revenir un petit peu sur le cas italien, donc avec Mario Vaudano. Tu nous parlais justement donc, de la situation pendant la deuxième partie du gouvernement Berlusconi, donc jusqu'à 2012, jusqu'au gouvernement Monti.
Les dernières 10 ans, disons.
Dernières 10 ans, et donc qui ont causé donc, cette augmentation de
prisons. Ils ont causé des désastres matériels et culturels.
Oui, aussi.
Ensemble,
je suis d'accord.
Parce que culturel, oui. Dans le sens plus large, pas seulement de la vulgarité, c'est facile de dire ça, connaissant Berlusconi et son entourage, mais c'est plus profond et plus dommageux.
Oui, c'est beaucoup plus difficile à récupérer, oui. C'est sûr. Et je voulais donc, on a dit avec le gouvernement Monti, les choses ont commencé un petit peu à changer, mais surtout cette année, en fait, l'Italie a été condamnée par l'Europe, en fait, par la Commission des droits de l'homme. Pour les conditions en fait de surpopulation, et on sait que la Cour européenne a donné un an de temps à l'Italie. Exactement. Pour changer la situation, et à cause de ça, en fait, ça a un peu poussé l'Italie à mettre en œuvre des changements, et on sait que le gouvernement l'est en fait cet été a décidé d'approuver en fait une loi qui se voit à carcere.
Pour être honnête, ouais. C'était une loi qui était déjà proposée sous le gouvernement Monti et qui était proposé et été porté avant
par le gouvernement Letta.
Après, il y a une autre loi plus importante qui est en cours. Mais bon.
Est-ce que tu peux justement nous parler de ce changement, de cette loi qui a été approuvée cet été par le gouvernement Letta?
Donc,
est-ce que ça va changer vraiment les choses?
On a calculé l'incidence de cette loi entre 3 000 et 5 000 personnes, donc ça ne va pas changer les choses. C'est utile, c'est toujours utile, mais ça ne va pas changer les choses sur 65 000 personnes qui sont détenues actuellement. Mais ce que je voulais dire, que quand je disais que la situation, quand j'étais président du tribunal de surveillance, était quand même différente. En réalité, les lois italiennes, si on met à côté les personnes qui sont qualifiées de crimes organisés, qui sont environ crimes organisés et terrorisme dans le passé, mais maintenant il n'y en a plus, on peut parler de 4 000 personnes. Donc 4 000 personnes sur 65 000, vous voyez qu'est-ce que c'est. Non, c'est pas rien.
Mais si, oui.
Oui, oui, ouais. c'est pas ça. Ça n'a pas rien à voir. Donc, et en plus, beaucoup de ces personnes ne sont pas de toutes des classes très basses, sont plutôt des classes moyennes et avec un enracinement de la délinquance très différent. Donc, c'est tout un autre discours. Enlevons cela, tous les autres, selon la loi italienne, encore maintenant, sauf ces problèmes pratiques que j'ai dit, après 16 ans et demi de détention continuelle, même avec la perpétuité, on avait, avait la possibilité de commencer à avoir un aménagement de peine. Donc beaucoup plus facile, plus large, que je sais que de ce qu'il y a en France. Donc même une personne avec 4 homicides, forcément, après 16 ans et demi, si elle avait tenu une conduite, si elle n'avait pas commis des délits en prison, d'autres choses, pouvait avoir déjà un premier aménagement de peine. Toutes les personnes, je parle de la loi qui est encore en vigueur maintenant, toutes les personnes qui ont commis un délit lié, pas simplement de trafic, lié un vol, un hold-up au stupéfiant, jusqu'à 5 ans de peine, pouvaient avoir immédiatement une possibilité d'aménagement de peine dans les communautés. Donc c'est une limite, quoi. Toutes les personnes qui avaient une possibilité, un état de santé, les femmes avec famille ou avec enfants, pouvaient jusqu'à 5 ans de prison ferme être mis en détention. Donc c'était vraiment, on était allé vers une possibilité très large. Après, il faut les moyennes. Alors, je pense qu'aussi, il faut dire ça, qu'après 2001, à cause de la crise aussi, mais aussi d'un choix politique, les moyennes ont été coupées. Et donc, il y a tout ce problème, parce que nella situazione italiana le strutture pour accueillir les personnes qui sortent de la prison avant ou à la fin formelle de la peine définitive sont des strutures en large partie privées, mais conventionnées avec l'État. Si tu coupes les moyennes qui sont données en général par la structure sanitaire locale à ça, comme est avvenu par exemple une grande structure qui s'appelle le Gruppo Abele di Torino, qui est une structure historique, évidemment après les possibilités d'accueillance deviennent mineures. Donc il y a toute cette histoire. Après il y a eu la loi pour les récidives, mais les problèmes, au moins pour l'Italie, pour ceux que j'ai connus directement, c'est pas pour ceux qui purgent une peine définitive. Pour ceux qui purgent une peine définitive, même la situation dans les prisons, parce qu'elle avait été améliorée pas mal dans les dernières années, et sauf certaines situations qui étaient plus définitives, ça, même d'un point de vue sanitaire, ça allait et ça va. Peut-être encore maintenant. Le problème, c'est pour les personnes pas définitives. Et ces personnes pas définitives qui entrent pour quelques mois, ils sortent, ils entrent, ils sortent, ils entrent, ils sortent. C'est ça qui a fini par détruire toute la possibilité, détruire, pas complètement, mais endommager toute la situation de possibilité de rééducation. Et en plus, le type de population que j'ai dit, une population multiforme, liée presque tout au trafic de stupéfiants, clandestins, donc qui n'ont ou qui n'ont pas une possibilité extérieure, avec des structures, externes pour accueillir, qui ont moins de moyens. Donc, c'est un peu tout ça. Et dans les définitives, moi aussi, j'ai vu des situations différentes d'évolution, mais surtout dans les longues peines. C'est vrai qu'après 15 ans, après, évidemment, la situation pour quelconque... mais c'est disons que d'un point de vue législatif, en Italie, entre 16 et 22 ans, même ceux qui ont commis un massacre, ce n'est pas lié au crime organisé, ils sont sortis et ils sont dehors, il n'y en a pas. N'existe pas de personnes qui sont plus de 22 ans en Italie. Il n'existe pas. Depuis longtemps, hein. Depuis longtemps.
Ça fait rêver. Ça fait rêver.
Oui, on voit les situations se dégrader pour les personnes incarcérées qui sont de façon très répétée incarcérées, qui ressortent mais qui ne peuvent pas entamer un projet.
Les problèmes, j'ai une trompe, c'est un moment pour dire l'expérience pratique. Tant comme personne, malheureusement, qui devait décider de l'incarcération en tant que juge d'instruction et procureur, que comme président de surveillance après, que c'est un choix que je répète, que j'ai fait, justement parce que dans la première partie de ma vie, pour la grande partie de ma vie, j'ai fait ce métier d'inquisiteur. Et donc, comme je connais, j'allais en prison même avant et je m'occupais un peu de personnes pour la partie humaine, même quand je pouvais. Quand je pouvais, j'ai dit, je ne peux pas terminer ma carrière sans voir et sans prouver l'autre côté. Parce que sinon, je pense qu'un juge qui ne fait pas ça n'est pas un bon juge.
Oui. Et des trois grandes missions qui sont assignées à la prison dans nos sociétés, celle de punir des faits, la deuxième de protéger la société d'une personne en l'incarcérant, et la troisième de la réinsérer.
Je vous interromps tout de suite. Ouais. Dans la Constitution italienne, ça fait rire. Après, j'ai dit, après, il faut voir la théorie et la pratique. Je ne veux pas indorer la pilule. Mais dans la Constitution italienne, les concepts de punition n'existent pas.
Oui.
Les concepts de punir n'existent pas. Les concepts de la peine, selon la Constitution italienne, c'est d'empêcher les dommages à la société, ça veut dire protéger la société, protéger la société et rééduquer si possible. Oui. Mais il n'y a pas le concept de ça, c'est une punition pour ce que tu as fait. Même si la mot peine, évidemment, reste. Mais dans les concepts de la Constitution, ça n'existe pas.
Ce qui me paraît intéressant quand même, j'aimerais bien quand même un jour pouvoir aller parler de ça avec un philosophe, d'ailleurs c'est un de mes projets, d'arriver à réfléchir au mot pénitentiaire, administration pénitentiaire.
Oui,
j'aimerais bien ça, parce que la notion, il y a une notion judéo-chrétienne de pénitence, quelque part, qui remonte au 19e siècle, quand l'administration pénitentiaire a été créée. Donc, on était avant la loi 1905 en France. Et donc, c'est un vocable qui est resté pour désigner cette administration qui est chargée de l'administration des prisons. Et voilà, je pense que moi, je suis bien incapable de répondre à ça, n'étant pas donc un philosophe, mais j'ai bien l'intention de le faire. C'est vrai qu'en en France... Je partage véritablement ce qui vient d'être dit. On parle pas véritablement de punition, mais de protection des intérêts des victimes, protection de la société. Et donc, c'est traduit dans différents textes du Code de procédure pénale, en particulier l'article 707. Bon, moyennant quoi, le système des peines en France est organisé d'une telle façon que, au travers de ce qu'on appelle les peines de sûreté, une personne qui est condamnée est dans l'impossibilité de demander quoi que ce soit tant que sa peine de sûreté est en cours. Soit une peine de sûreté automatique, par exemple pour des faits d'assassinat, vous avez la moitié de la peine en peine de sûreté. Pour des condamnés pour lesquels on a voté une peine de sûreté de 18 ans, 22 ans, etc., là c'est la même chose, tant que la sûreté n'est pas terminée, on ne peut rien demander. Et donc j'ai l'habitude, moi, de dire que lorsqu'on est avant la mi-peine ou dans le cadre de la peine de sûreté, on est dans la punition proprement dite, parce que de fait, il s'agit d'une punition, puisque...
La peine de privation de liberté.
Oui, c'est ça. Sans aucune mesure d'aménagement particulier, sans aucun travail particulier de préparation à la sortie, puisque de toute façon, ce n'est pas le moment venu. Enfin, moi, je réagis différemment avec mes clients, mais on en parlera. Et puis dès le moment où soit la peine de sûreté est terminée ou levée, ou dès le moment où on est arrivé à mi-peine, là commence la phase de réinsertion proprement dite, parce que ce n'est pas parce que vous êtes arrivé à mi-peine que vous sortez. Et là, vous commencez à réfléchir à la sortie, à l'aménagement de peine. Bon. Moi, quand j'ai un de mes clients qui vient d'être condamné par une cour d'assises, je lui dis ta réinsertion et ton projet de sortie, il commence dès demain. Indemnisation des parties civiles, études, travail, exactement la manière dont a raisonné Jacques Delahaye pour lui-même. Bon, Jacques Le Sage, pardon, Jacques Le Sage Delahaye. Voilà, mais donc c'est vrai que cette notion de punition, elle n'est pas véritablement prévue par les textes, c'est vrai, mais on parle quand même de pénitence au travers du nom de l'administration. Et puis il y a les peines de sûreté qui font que finalement, bah, n'empêche qu'on vous punit et on ne vous fait que vous punir pendant un certain temps de votre peine.
Voilà, et d'autant plus, en fait, ce sont les conditions d'accompagnement des personnes détenues qui vont faire que la peine sera de moins une punition, mais davantage un temps qui est proposé pour une reconstruction, une réflexion, un parcours à mener. Mais donc ça nous amène à poser les questions de quel accompagnement est fait des personnes en détention, parce que si elles sont mises simplement en cellulé et laissées quasiment dans leur solitude, on sait très bien que la prison a un effet tout à fait dévastateur sur les personnes. Donc on a vu en fait cette population carcérale augmentée se dégrader, accompagnée en plus, aggravée par la crise, par un durcissement des lois depuis au moins une vingtaine d'années, je crois que ce mouvement est constant, et peut-être il y a une amorce de changement avec la nouvelle garde des Sceaux en France, Christiane Taubira. On attend de savoir ce que ça va devenir, c'est parce que là aussi c'est toujours en débat, mais on pourrait aller vers, en tout cas, un constat d'échec de ce tout carcéral. On sait que le dogme de l'enfermement n'apporte... Enfin, ça, c'est des opinions, mais en tout cas, peut-être on peut revenir au point de l'émission qui était de se demander comment donner un sens à la peine. Quels sont les... Vous avez tous les deux des expériences importantes d'application des peines. Quelles sont les alternatives qu'on peut trouver et les aménagements de peine qui existent? Quel est l'arsenal existant et qu'est-ce qui peut se développer davantage?
Et surtout, moi, j'ai une question par rapport à ça. On sait quand même ces possibilités... Elles sont là, mais on sait aussi qu'on ne les applique pas. Enfin, il y a des freins à ça.
Alors, pourquoi? Parce que
les freins, c'est extrêmement facile à trouver. Déjà, c'est un problème humain et de moyens humains. En France, on manque cruellement de travailleurs sociaux en prison. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent et qui est, à mon avis, crucial. S'il y a autant de petites peines qui ne font pas l'objet d'aménagements ab initio, c'est-à-dire avant la mise à exécution, et qui se retrouvent en prison, des gens qui se retrouvent en prison, c'est parce qu'il n'y a pas assez de travailleurs sociaux pour essayer de construire des projets pour des personnes qui sont condamnées à des petites peines en France jusqu'à 2 ans, ou 1 an s'ils sont en récidive, pour essayer de leur trouver un bracelet, etc. Bon. Et donc c'est vrai que de ce fait, il y a beaucoup de peines qui sont mises à exécution, alors qu'elles pourraient peut-être, pour certaines d'entre elles, de façon marginale, et même pour un grand nombre d'entre elles, faire l'objet d'un aménagement.
Ça, pour vous, c'est beaucoup un manque de personnel pouvant instruire ces cas-là.
C'est absolument évident. Et c'est encore plus vrai pour les personnes qui purgent. Des travailleurs sociaux en France, on en a 2800 ou 2600 ou 2800, vous vous rendez compte, pour 60 et quelques mille personnes, moins les prévenus, c'est absolument insoluble. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, lorsqu'une personne n'est pas conditionnable, les travailleurs sociaux, ils s'en occupent pas parce qu'ils s'occupent de ceux, et comme ils ont un nombre de personnes à gérer absolument faramineux chacun, forcément, ils se concentrent sur ceux pour lesquels il y a des projets à faire. Et encore, c'est une des raisons pour lesquelles on assiste à un nombre aussi élevé de sorties sèches, c'est que les travailleurs sociaux, ils font ce qu'ils peuvent.
Je crois que c'est de l'ordre de 80% en France, les sorties sèches, ou je me...
On avait dit qu'il y avait à peu près 20% d'aménagement de peine, on est à 80% de sorties sèches. Là, par exemple, dans 15 jours, je vais défendre aux assises une personne qui est poursuivie pour un crime qui... je ne vais pas dire que c'est la raison, mais bon... N'empêche que c'est quelqu'un pour lequel aucun travail social n'a été fait, qui avait fini une peine de... Il avait passé, 12 ou 15 ans en prison pour un meurtre, qui est ressorti en fin de peine, en sortie sèche, qui s'est retrouvé sur le trottoir, et puis qui s'est reconstruit ou qui a tenté de se reconstruire comme il pouvait. Et puis, il y a eu ce passage à l'acte nouveau, gravissime, et pour lequel il a déjà pris 20 ans en première instance, pour lequel je vais le défendre en appel. Mais bon, je veux pas dire que ça explique le crime qu'il a à nouveau commis, moyennant quoi, faut peut-être aussi s'interroger sur la manière dont il a pas été pris en charge à sa fin de peine, après une période si longue. C'est un exemple. Les travailleurs sociaux en France aussi, jusqu'à l'affaire de Pornic, il y a quelques années. Vous savez, c'est ce monsieur-là qui était sorti de prison, enfin qui avait un sursis avec mise à l'épreuve, dont le suivi avait été mal ou pas pris en charge, et qui a commis un crime. Monsieur Meillon. Eh bien, les travailleurs sociaux avant cette époque-là faisaient du vrai travail social, c'est-à-dire qu'ils faisaient des aménagements de peine, ils construisaient des projets de sortie. De manière, comme le fait n'importe quel travailleur social, hébergement, travail, prise en charge, bilan social, etc. Et on leur a demandé beaucoup plus à partir de maintenant, et je l'ai constaté dans le travail qu'ils font pour les projets d'aménagement de peine que je mets en place depuis cette affaire-là. On leur demande beaucoup plus de travailler sur la réflexion par rapport au passage à l'acte, une étude comportementale.
Et d'évaluer une dangerosité.
Exactement,
aussi.
Évaluation de dangerosité. Voilà.
C'est un concept nouveau aussi, ça.
Je cherchais le terme. On leur demande de faire ce travail-là, qui est du boulot de criminologue ou même de psychologue ou de psychiatre, alors que par ailleurs, vous avez des psychiatres qui le font. Bon.
Et à condition qu'on puisse le faire.
Voilà. Et dans toutes les notes, dans toutes les synthèses qu'ils font, cette note n'engage pas la responsabilité du travailleur social, etc. Parce que, bien évidemment, maintenant, les pauvres, ils sont complètement terrorisés. Mais on leur demande surtout de faire ce travail-là, avant même d'imaginer du travail social, de construction du projet de sortie. C'est une inversion qui, à mon avis, est tout à fait dommageable. Alors, je ne sais pas si on va revenir là-dessus grâce à la réforme pénale. Oui. Mais bon, n'empêche qu'il y a une évolution très, très sensible de leur rôle.
En tout cas, je pense que la situation en Italie n'est pas trop lointaine de celle qui évoque Étienne Noël.
Encore... je voulais ajouter une chose. Pourquoi, même s'il faut bien s'entendre sur ce que c'est les prévenus en Italie, parce que dans les prévenus en Italie, on met aussi toutes les personnes qui sont même qui ont été déjà condamnées en appel, donc avec un double conforme, et qui attendent la cassation. Donc, si on enlève cette partie-là. Et les prévenus sont beaucoup moins, mais quand même sont trop. Et encore une fois, c'est la situation de charge des délits et des choses inutiles dont a été chargée la magistrature et les tribunaux dans cette période, je dirais presque d'une façon volontaire de la part du gouvernement, occupez-vous de ça, non ? On dit presque occupez-vous de ça, vous occupez plus d'autres choses.
Criminalité au col blanc.
Exactement, non, exactement. C'était presque dit. Donc vous occupez de ça et aussi de la mentalité d'une partie de la population, disons, qui correspond ici au Front National, mais qui ne sont pas nécessairement des riches. C'est une culture qui malheureusement s'est installée avec l'ignore d'un parti dans la population, même ouvrière en Italie et aussi en France. Et donc c'est un problème culturel grave aussi ça. Ceci dit, il y a très énormément peu de travailleurs sociaux dans les centres aussi en Italie. Mais si on, avec l'ensemble de la partie publique et de la partie parapublique, en réalité, jusqu'à 2001, avec une population de 40 000 personnes, 45-50 000, on arrivait à faire face. Et la règle pour une personne définitive, je ne parle pas d'une personne définitive qui a purgé 9 mois, mais une personne définitive qui purge 2, 3, 4 ans et plus de prison, c'était la suivante. La personne, après la moitié des peines, ou même un peu moins, commence à sortir avec des permis, après commence avec une forme qui n'existe pas en France, mais qui s'appelle la confiance aux services sociaux, qui est très large, qui peut arriver jusqu'à 4 ans, 5 ans, 5 ans, et après avoir fait ça, passe à la libération conditionnelle, qui en Italie, c'est la dernière étape, et qui on purge en totale liberté sous le contrôle des services sociaux. Donc, et jamais, comme président du tribunal de surveillance, jamais il y avait des sorties qui étaient différentes.
On préparait toujours la sortie, en fait,
si,
à l'avance.
Ça veut dire que la personne commençait avec des permis de sortir, même si on parle des personnes pour des délits graves, parce que après, les permis de sortir étaient plus fréquents. Après, il y avait l'jugement pour une semi-liberté ou un travail à l'extérieur qui est plus ou moins la même chose. Après, il y avait une période de liberté plus contrôlée. Et après, donc, c'était toujours ça, c'était la règle.
Et ce malheureusement, scénario n'a plus été possible, et de moins en moins possible ces dernières années avec ce que vous écrivez.
Et de moins en moins possible, ouais, pour les brefs, les peines. Les peines courtes, et surtout parce que ces peines courtes concernent une population qui a beaucoup changé.
Oui, et qui a beaucoup de problèmes aussi.
C'est pareil en France,
on ne peut rien préparer pendant une peine courte, il n'y a aucun travail social possible.
Alors justement, ces peines courtes, on sait qu'on ne peut pas préparer réellement de projet de sortie, elles ne permettent pas de vraiment se former en prison, de faire un projet d'études, etc. On sait qu'elles mènent des gens qui étaient peut-être primo-délinquants, un petit peu par hasard, à fréquenter des plus gros criminels, donc il y a une école de la prison qui a été décriée aussi. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur ces petites peines? Je sais que toi, Étienne Noël, tu as aussi, tu mets en avant des mesures possibles d'aménagement et de renforcer peut-être les travaux d'intérêt général. Qu'est-ce qui existe comme arsenal possible? Qu'est-ce que vous préconiseriez pour éviter la dégradation, le mauvais effet en fait que font aux personnes le fait d'être incarcéré comme ça pour des...
Comme tu le disais il y a quelques minutes, on a déjà un éventail de peines alternatives en France, ouais, qui va être renforcé lorsque la peine de probation sera votée. Je ne sais pas combien ça touche de personnes. En France, la durée moyenne d'une peine d'emprisonnement, c'est 9 mois. Mmh. Il y a encore quelques années, d'ailleurs, c'était 4 mois. Mais donc, on a doublé. Bon, 9 mois, ça représente donc une très, très forte proportion des personnes qui purgent. Bon, et donc on est à l'intérieur de la zone d'aménagement de peine qui, en France, pour les non-récidivistes, est de 2 ans. Bon, et donc juste une peine jusqu'à 2 ans, on peut l'aménager soit avec un régime de bracelet électronique, qui est une sorte de prison à l'extérieur. Enfin, moi, c'est pas forcément de la panacée, mais bon, c'est mieux que la prison intramuros.
Combien de personnes accèdent à ce type de dispositif de nos jours, le bracelet?
Ça, je suis vraiment désolé, je n'ai pas de chiffre exact, mais je sais par exemple à Rouen des personnes sous bracelet électronique sur 800 personnes sous écrou à Rouen, à la maison d'arrêt de Rouen, dont 650 hommes détenus, il y a pas loin de 80 à 90 bracelets, donc c'est des personnes qui sont sous écrou à la maison d'arrêt de Rouen. Mais qui sont à l'extérieur avec leur bracelet électronique. Donc ça fait quand même une proportion qui est d'à peu près 10% de la population pénale de Rouen. Donc il est possible que ça soit à peu près représentatif du niveau national. C'est en forte augmentation, c'est vrai, mais c'est encore extrêmement réduit par rapport à tout ce qu'on pourrait faire. Il y a aussi ce qu'on appelle le placement extérieur, c'est-à-dire des personnes qui, toujours sous écrou, purgent leur peine dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, est souverain pour les personnes qui sont désinsérées à l'extérieur, parce qu'ils ont à la fois un hébergement et des contrats aidés, des contrats qui leur permettent de reprendre pied dans le travail à l'intérieur de la structure d'hébergement. Et là encore, il y a un problème de financement de ces structures-là en France qui est extrêmement préoccupant. À côté de ça, il y a la semi-liberté, mais moi, je m'y résous mal parce que ça implique toujours un passage en prison le soir. Mm-hmm. Voilà. Mais voilà. Et puis, il y aura la peine de probation après, le sursis avec mise à l'épreuve, etc. Parce que moi, je trouve que parfois, vous avez des gens qui sont infiniment plus punis lorsqu'on leur confisque leur voiture plutôt que de les condamner à de la prison. Donc il faut aussi savoir, ça peut être extrêmement, extrêmement punitif pour une personne de se faire confisquer tel ou tel bien auquel il est particulièrement donc attaché. Voilà, c'est...
Donc, moi, j'avais une question. Voilà, je suis derrière la vitre à la technique. Jacques Lesage de La Haye nous a beaucoup parlé des alternatives aux prisons. On ne peut pas le passer, l'extrait, on n'a pas le temps. Mais des alternatives concrètes à la prison qui ont eu lieu, je crois qu'on avait...
Dans le Massachusetts, voilà,
et en Italie aussi.
En Italie aussi.
Et en France,
apparemment, le taux de récidive descendait de 50% dans un cadre normal de prison normale. 50% de récidive à la sortie, à parfois 15% dans ces alternatives concrètes qui sont en dehors carrément du système carcéral. Donc pourquoi on ne va pas carrément dans ces directions-là et pourquoi pas abolir la prison, dirait Jacques Lesage de La Haye.
Vous voulez peut-être répondre, Mario Vaudin.
Donc, et je voulais dire que dans la loi qui est proposée maintenant, qui est examinée par le Parlement italien, il y a la proposition... même de, comment dire, que toutes les incarcérations, ce que vous appelez écrouées en personne, c'est un mot très terrible. C'est un mot terrible, mais bon, ça veut dire qu'est-ce qui arrive à certaines personnes. Et donc, la possibilité pour toutes les peines jusqu'à 5 ans de prison, qui ne soient pas liées au crime organisé, donc on parle de 95%, même plus, toutes les peines. Des primo de n'être pas incarcéré même en détention préventive sauf des cas extrêmes et de purger la peine, toute la peine pratiquement du début en système de ce qu'on appelle la détention domiciliaire qui est très développée en Italie. Naturellement, le problème c'est avoir un domicile. Alors le domicile peut être chez des parents, peut être ceux qui ont leur domicile, et peut être chez un hébergement, une communauté. Il y en a, en Italie, je dois dire qu'il y en a une quantité, me semble, très, très, très importante, soit liée à l'environnement catholique, soit liée à l'environnement laïque, qui travaille bien ensemble et qui produit un taux de récidive, je dois dire, pour ça. Je parle donc en ce moment de 50 000 personnes à mesure alternative, plus ou moins. Et on a calculé que pour les personnes qui sont à mesure alternative, les taux de récidive est moins de 25%. Ça veut dire que 7 sur 7, 8 personnes sur 10, donc c'est
un système qui fait ses preuves toujours. Oui.
Et donc les problèmes, je répète, et la situation particulière de la population carcérale dans ce moment en Italie, avec tout ce que j'ai déjà ajouté avant.
Oui, alors, pour répondre sur le plan un petit peu général à la question qui vient d'être posée là. Moi, je pense qu'en France, on a quand même un fantasme, c'est que la sécurité, ça passe par l'enfermement. Et donc, même s'il y a des lois qui sont votées, je pense qu'après leur mise à exécution, il y a une volonté affichée de dire on va lutter contre, etc. Mais ça se heurte, en fait, à quelque chose de conscient ou d'inconscient, c'est que finalement... On essaie d'instiller dans la population le sentiment que la sécurité, ça passe par l'enfermement. Et du coup, ce discours qui est donné aux gens les convainc en fait qu'il ne faut pas véritablement lutter contre la prison, puisque finalement, c'est le seul moyen de lutter. Et on brandit un taux de récidive qui ne veut rien dire en France. On dit, il varie tout le temps d'ailleurs. D'ailleurs, personne n'est véritablement d'accord. On dit il y a une récidive qui est en recrudescence, c'est terrible, regardez tous les crimes, etc. Les gens sont à peine... Etc. Vous voyez, il y a une exploitation médiatique qui est faite aussi.
Qui joue beaucoup sur l'émotionnel, et puis des lois qui tombent après des cas graves.
Exactement, et qui convainc les gens que finalement, il faut lutter contre la récidive puisque les criminels à peine sortir. Alors que les chiffres, c'est exactement ce qui vient d'être dit. Il faut faire la différence entre la récidive pour les atteintes aux biens, les petits délits et la grande récidive criminelle qui, en France, est ridiculement faible. C'est pas parce qu'on parlera pendant 15 jours d'un crime horrible qui sera commis quelque part que forcément tout le monde commet des crimes en récidive quelque part sur le territoire. La récidive criminelle en France, c'est 5% des sortants de prison qui récidivent crime pour crime.
Et encore, ça baisse encore lorsqu'ils sortent avec un aménagement de peine. Regardez, mon gars, dans 15 jours, ben effectivement, c'est l'exemple de la récidive criminelle. Effectivement, il est sorti en sortie sèche, il fait partie des 5%. OK, mais n'empêche que c'est quand même extrêmement faible.
Et puis ça... une société avec zéro violence est un leurre. Enfin, ça n'existe pas non plus.
Bah, au risque de choquer, moi je dirais que la récidive, c'est un peu l'écume de la vie. Je suis vraiment désolé, mais c'est quelque chose... Personne ne nous dit d'abord si les lois servent à quelque chose. On n'aurait jamais réussi à mesurer leur impact depuis le 12 décembre 2005. D'autre part, le fameux taux là, de récidive, est-ce qu'il baisse, est-ce qu'il monte, on n'en sait absolument rien. Donc on le proclame dans un but essentiellement politique et démagogique, sans véritablement faire quoi que ce soit. Et ce qui me fait peur, moi, la réforme pénale là, en France, on la reporte après les élections municipales parce que c'est un sujet trop délicat. Mm-hmm. Quel courage politique extraordinaire quand même, hein. Ben je trouve que cette réforme, elle est utile. Avec un petit bémol, mais on n'a pas le temps. Moi, je me souviens toujours qu'en 1981, vous avez un candidat socialiste qui a dit « Moi, je supprimerai la peine de mort ». Alors que 70% des Français étaient pour. Il a été élu, il l'a supprimé. Bon, ben... Je vois que personne ne cherche à prendre modèle sur lui en ce moment.
Ce sont des inflexions de société qui doivent être accompagnées par une volonté politique et pas forcément voter au plébiscite des populations. Donc en tout cas, on voit que les véritables outils contre la récidive, là où on arrive à voir concrètement les taux baisser, c'est quand il y a des aménagements de peine, des accompagnements, des projets de sortie et éventuellement des solutions alternatives proposées.
Et en plus, on ne parle jamais des combien d'argent on pourrait économiser en fait en appliquant ces peines-là. Parce que je veux dire, le système pénitentiaire à bord de la faillite, il faut le dire. Enfin, il y a un manque de moyens même pour chauffer les cellules des prisonniers, pour l'électricité, pour la nourriture.
Pour la nourriture.
On ne parle pas de combien on pourrait économiser si on appliquait des peines alternatives.
Mais absolument. Je n'aime pas mettre tout sur les problèmes économiques, mais c'est objectif, effectivement. Une personne, quelconque personne, même dans la structure la plus... accompagné pour toxicodépendants, avec dans une communauté dans laquelle il y a des médecins, des psychiatres, assistantes. Je peux le dire parce que j'ai une expérience personnelle en famille. La petite fiancée de mon deuxième enfant de 38 ans, elle travaille dans une communauté comme ça. Donc, je connais directement le travail depuis presque 6 ans. Mais j'ai visité beaucoup de ces communautés. Je l'ai fait visiter à cette journaliste de France Culture. Donc, on a vu, naturellement, dans cette communauté, j'ai dit que même pour les toxicomanes les plus difficiles, on a fait... Et ça, les dit aussi les personnes pas de droite, c'est assurer une réussite au moins 50%. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Et ça, il n'y a pas de discussion, parce que sur les mesures alternatives, les statistiques sont fiables.
Et en Norvège, on a le cas des prisons ouvertes qui sont expérimentées depuis très longtemps. Mmh. Et on voit aussi un taux de réussite très important. Alors, il y a quelques petites expériences en France. Pourquoi est-ce que ça n'est pas plus développé en Italie aussi ? Qu'est-ce qui freine ? Alors, il y a peut-être des facteurs de géographie, de démographie, mais il y a aussi de la volonté politique. Et on va écouter un autre dernière partie de témoignage de Jacques Lesage qui évoquait justement des alternatives à l'emprisonnement.
Sur le futur de ce qui peut arriver aux prisons, en fait.
Et je tenais à dire quand même que sur le site de Vitali, on va mettre aussi les parties qu'on n'a pas pu écouter ce soir.
De Jacques Lesage.
Voilà, de cette interview avec Jacques Lesage de l'AIE.
Et voilà, et justement, il va. Donc, c'est sur la conclusion, sur le futur de ces prisons, sur peut-être les alternatives qui vont prendre le pas sur la prison, et avec un bémol sur la rue.
Il faudra continuer à faire attention au fait que fermer les prisons, comme fermer les asiles et fermer tous les lieux d'exclusion, eh bien, ça fera partie d'un système qui aura pour but de transférer cet enfermement spécifique en un enfermement général de toute la société.
Un peu comme là, on est sur une déconstruction de l'hôpital psychiatrique en ce moment, qui est plutôt une dissolution qu'une abolition.
où on garde les mêmes méthodes. On va retrouver ça avec la prison bientôt. C'est un peu ce que Deleuze, dans les sociétés de contrôle, à la suite de Foucault, avait analysé. C'est-à-dire qu'on rentre dans un moment historique de nos sociétés où les grosses structures, la prison, l'hôpital, sont en train de se déstructurer complètement pour se diluer dans la société, on va dire. Donc, ce n'est pas une vraie abolition comme on la souhaiterait. Et la prison, maintenant, avec le bracelet électronique, est en train de suivre cette voie de déconstruction du bâtiment pour, comme ça, infiltrer la société. Et on peut dire presque qu'à terme, c'est toute la société qui va être une société de prisonniers, où on va tous être contrôlés comme avec un bracelet électronique.
Bon, de toute façon, c'est déjà en route. Hein. Si vous lisez « Surveillance électronique planétaire », c'est un bouquin qui nous a retournés. Nous, ce livre est paru au début des années 2000. C'est inutile de se raconter la moindre histoire et d'avoir la moindre illusion. C'est déjà en place.
Et comment éviter cet aboutissement? C'est-à-dire, comment déjouer ce piège que l'État, dans sa forme contemporaine, moderne, nous tend et continue de resserrer les liens autour de nous?
Ça veut dire ne pas laisser les outils informatiques et électroniques seulement entre les mains des gouvernants, les récupérer, les utiliser et conquérir un certain pouvoir, voire le pouvoir, mais en même temps, en construisant un savoir qui lutte contre le savoir de ceux qui ont le pouvoir, élaborer une critique de ce savoir pour arriver à construire un autre savoir qui sera alternatif. Mais la question qui se pose, c'est que quand même, faut pas imaginer qu'on va y arriver comme ça, parce que en ce qui concerne l'hôpital psychiatrique, on s'aperçoit que c'est quelque part un échec, je parle pour les usagers, et que ce qui se passe dans les sections psychiatriques des hôpitaux généraux ou des petites unités en ville est équivalent à ce qui se passait dans le grand asile. Donc on s'aperçoit bien que l'inconvénient des méthodes alternatives, c'est d'affaiblir les rapports de force des militants par rapport à l'État ou au capital, ou au capitalisme. Et ça veut dire aussi qu'il faudra continuer, même si on continue ce combat qui consiste à améliorer les conditions de détention, fermer les prisons, eh bien continuer à faire attention au fait que fermer les prisons, comme fermer les asiles et fermer tous les lieux d'exclusion, eh bien ça fera partie d'un système qui aura pour but de transférer cet enfermement spécifique en un enfermement général de toute la société. Donc si on a conscience de ça, ça voudra dire qu'il faudra lutter aussi au niveau de l'État et du système économique international, ce qui veut dire aussi rassembler tous ceux qui luttent dans toutes ces luttes spécifiques en une seule lutte générale contre le capitalisme et l'État. Sinon, on aura forcément ça un jour comme aboutissement. Ben, vous pouvez être content, on a fermé l'asile, on a fermé la prison, les femmes ne sont plus exploitées, il n'y a plus d'ostracisme, de racisme, d'exclusion, de bannissement. Ah oui, c'est vrai que la prison n'existe plus, mais c'est la société qui est une prison. Ah bah ben ça, mon vieux, fallait savoir ce que vous vouliez. Vous vouliez fermer la prison, mais on ne peut pas marcher sans sécurité ni contrôle. Prenez-en à vous-même. Donc il y aura un discours pervers à la sortie pour nous dire, ben, on vous a bien eu. Donc c'est aussi pour ça qu'il faudra tout le temps être conscient de ça et ne jamais dire, on a gagné, dire, le combat continue. Au contraire, le combat continue.
Est-ce que Étienne Noël, je vois que vous avez envie de réagir.
Oui, alors là, oui. Hier matin, j'ai défendu devant le juge de l'application des peines une personne qui est sous bracelet électronique mobile. Et ça, je pense que c'est ce qu'on peut faire de pire en termes de prison à l'extérieur. En plus, c'est quelqu'un qui a fini sa peine.
Oui, donc il est dans une situation de rétention de sûreté.
C'est une mesure de sûreté.
Une mesure de sûreté à l'extérieur.
C'est une mesure de sûreté, le bracelet électronique mobile étant le haut du toboggan savonné qui mène à la rétention de sûreté. Tout ça parce qu'un psychiatre a dit qu'il y avait un risque de récidive, du potentiel, etc. Bon, donc le principe de précaution fait que de plus en plus de personnes se retrouvent avec des mesures de sûreté, dont le bracelet électronique mobile. Alors, fort heureusement, il n'est pas encore extrêmement développé, mais j'ai eu beaucoup de clients. Ce système ne marche pas très très bien, donc systématiquement, ça ne capte pas. Les gens sont appelés, etc. Donc la personne est systématiquement fliquée, quasiment 24 heures sur 24. Un exemple, par exemple, il devait choisir un appartement. Il n'a pas pu prendre cet appartement parce que le bracelet électronique ne captait pas dans les toilettes. Il ne capte pas au centre de la pièce. Il faut qu'il aille à la fenêtre ou le contraire, etc. Donc, c'est absolument invraisemblable. Les gens lui demandent ce que c'est que ce bracelet qui vibre, cette espèce de téléphone bizarre qui vibre dans sa poche. Et donc, tout le monde maintenant trouve ça normal, alors qu'à une époque, on s'était récrié contre ce truc-là. Et je sais que c'est extrêmement difficile de convaincre un tribunal d'application des peines en France de lever une telle mesure. Parce que finalement, maintenant que la loi existe, eh ben, finalement, elle s'applique et puis ça rentre dans une espèce de normalité.
Puis c'est le dernier filet qu'on a l'impression d'avoir sur une personne qui a été incarcérée et qui a commis des actes dans le passé. Mais à la fois, c'est aussi rompre le pacte qui veut qu'une personne, une fois qu'elle a purgé sa peine, elle doit pouvoir réintégrer à plein la société.
Oui, et ce qui est absolument terrible, c'est que c'est l'échec, finalement, de ce monsieur-là, par exemple, des 15 ans qu'il a passé en prison, parce qu'on se rend compte que finalement, ça a servi absolument à rien sur le plan du traitement. Alors, ça met en cause aussi l'hôpital lui-même, parce que depuis qu'il est rentré en prison, est-ce qu'il met les moyens suffisants en termes de soignants, de thérapeutes, etc. Et donc, on se dit, finalement, la prison a servi à rien, donc on repart sur une peine de prison qui peut être renouvelée ad vitam aeternam.
Et juste, je voulais demander à Mario Vadar le mot de la fin, parce qu'après, en fait, on va passer un petit morceau de musique pour conclure. Et je ne sais pas si tu veux réagir un petit peu à ce que Étienne vient de dire, ou si tu veux dire quelque chose de plus général, même sur la situation italienne.
Je veux dire que la situation italienne, en ce moment, a une possibilité théorique, si les moyens économiques seront mis en place. Mais je pense que même 150, 300 millions d'euros, ce n'est pas un problème réel pour l'économie italienne, même dans ces moments difficiles. Donc c'est aussi une volonté politique, aussi parce que l'Italie se finance beaucoup. Le ministère de la Justice a un financement important par les saisies confiscatoires. Donc, à différence qu'en France, que tu vas dans les budgets de l'État, c'est les saisies confiscatoires qui sont de la, pour donner une idée, dans les dernières 5 ans, 5 milliards d'euros. Donc, 5 milliards d'euros ne sont pas les 600 milliards qu'en France. Va dans le budget du ministère de la Justice, va pas dans le budget
de l'État.
Dans son ensemble. Donc, ouais. Je pense que là, on peut trouver les moyens. Et c'est évident que 10 ans de dégradation sont difficiles à remonter. Mais je pense qu'avec l'effet que quand même la loi, la grande réforme pénitentiaire, la loi de 95 et la loi Gozzini après qui est arrivée, qui concerne les 15, 16, même plus pour cent des détenus, est resté en vigueur, même s'il y a eu des modifications qui doivent être absolument revues. Et la porte est ouverte pour revenir en situation normale. Si vraiment on veut, il faut du courage et du courage politique. Heureusement, les bracelets électroniques, ça s'est problégué un peu, comme il y a eu un scandale sur l'appel d'offres. Heureusement, les bracelets électroniques ne s'est pas développé en Italie.
De façon, on n'a pas ce problème-là, on en a d'autres, mais pas celui-là.
Moi, je pense que quand même, sur les appels publics, offres publics en France, il y a pas mal de choses à voir.
Bon, l'émission touche à sa fin. On voulait vraiment remercier donc Étienne Noël pour avoir participé à l'émission, Mario Vaudan aussi, donc Élise Gros qui était avec moi ce soir, et Bertrand qui a la technique.
Et qui s'excuse encore pour le problème de fichier.
Il n'y a pas de souci.
Et Véronica. Qu'on retrouvera sur Internet, donc sur le site de l'Envie d'Italie.
Et Véronica Colati.
Non mais attends, surveiller, ça veut dire quoi surveiller? Juste ouvrir, fermer des portes? Non, pour moi ça va bien au-delà. Et c'est ça qui est intéressant, être surveillant de prison. C'est bien évidemment assurer la sécurité de tous. Mais c'est aussi savoir écouter, comprendre, anticiper. Être surveillant de prison, c'est veiller sur les détenus. C'est un métier vivant, et c'est ça qui me plaît.
Le ministère de la Justice recrute et forme des surveillants pénitentiaires. La prison change, changez-la avec nous.
Nemmeno in occasione degli ultimi momenti saranno considerati degli esseri viventi.
si
les prisonniers et les surveillants étaient solidaires, eh bien, ils remettraient en cause l'institution totalitaire carcérale et même l'État indirectement, puisque la prison est un des piliers de l'État.
Nella società e questo è solo un modo per rubarti dignità. E allora come adesso no, non è cambiato niente, quello che prevale è l'indifferenza della gente. Non finire. Preferimento.